Bon vendredi, bon début de week-end. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. J'attendais ce moment avec beaucoup de fébrilité parce que je voulais lui dire que particulièrement cette semaine, à l'image du Canadien, son énergie était tellement bonne et tellement high que personnellement, je l'aurais fait descendre la passerelle pour embarquer sur le power play. Pierre-Rouge, comment ça va?
Ça va bien, Denis. Bonjour, Véro. Salut tout le monde. Écoute, je pense que tu aurais été déçu. L'énergie, oui, mais le talent, mon cher Denis, oh, non, oui. je passais mon tour. Je préfère être assis sur mon perchoir et décrire les exploits des joueurs de hockey sur la glace. Malheureusement, je n'ai pas ce talent-là. Mais oui, écoute, il faudrait être vraiment déconnecté, je vais utiliser le terme, pour ne pas avoir une énergie particulière, supplémentaire, compte tenu de ce qui se passe présentement chez le Canadien et à travers la Ligue nationale au complet, avec le début de saison des fins, tout ça, c'est une très, très belle période.
Puis on a vu, Pierre, que les gens sont au rendez-vous cette semaine. Vous avez eu votre match le plus écouté de l'année, mardi soir, entre le Canadien puis les Sénateurs. Puis peut-être que tu vas trouver l'image un peu forte, mais je trouvais littéralement que tu avais l'énergie d'un jeune premier mardi soir. Je l'ai dit aux auditeurs cette semaine, je parle dans ton dos des fois. Là, fait que...
Toujours en bien, fait que les oreilles ne te suivent pas. Là.
Je constatais cette semaine à quel point tu es, pour notre génération, la trame sonore officielle du Canadien de Montréal. Et ça fait une différence quand on vit des moments sportifs de cette envergure-là puis que c'est toi qui es aux commandes. Ça fait toute la différence du monde. Ça n'enlève rien aux autres, puis c'est pas ça le but non plus. Mais tabarnouche, vive le but de Brendan Gallagher hier en échappée, qui a égalisé la marque contre les Islanders de la façon qu'on l'a vécu avec toi. Suive le match complètement endiablé contre les Sénateurs. On avait l'impression d'être en séries éliminatoires. On avait l'impression... D'ailleurs, je vais écrire au premier ministre, Pierre, là, je veux passer un projet de loi pour que tu sois la voix du Canadien en série, indépendamment du réseau. Je te tiens au courant, mais je travaille là-dessus.
Ah, Denis, c'est vraiment très gentil, tout ce que tu me dis. Écoute, c'est très touchant. On a eu beaucoup de commentaires. Écoute, deux, trois choses. Un, sur la cote d'écoute. Ça, c'est la moyenne à la minute, mais ouais. le sommet a été bien au-delà de 800 000 téléspectateurs.
C'était où? C'était pendant la troisième période?
C'était au début de la troisième, Véro, pas à la fin. C'est drôle, hein? On pense toujours que c'est à la fin, ouais. Le crescendo. Non, c'était au début de la troisième période. C'est 800 quelques mille de... J'ai oublié le nombre exact.
Ça veut dire que le sommet, oui, était un peu au-dessus de la moyenne, mais ça veut dire que vous avez maintenu des très gros chiffres tout au long de la partie d'abord.
Ah
que
oui.
Que ce soit 721 000.
Écoute, Véro, même dans l'Ouest... Vancouver et Seattle, qui n'étaient pas des heures très conviviales, on avait en haut de 300 000 de moyenne. C'est assez exceptionnel. Ouais. Alors, écoute, merci du commentaire. Et je ne voudrais pas oublier, je veux saluer un auditeur fidèle.
Ah oui?
Avec qui j'ai soupé hier soir, un en face de l'autre. Oui.
Qui ça?
Vous connaissez Stéphane Cadorette, excellent journaliste sportif.
Oui.
Stéphane m'a dit à quel point il est un fan, mais vraiment un fan fini de nos conversations du vendredi.
Voyons donc!
C'est donc bien le fun!
Et je lui ai promis que j'allais le saluer aujourd'hui. Écoute, je l'adore, j'ai adoré ça, évidemment son père, mais je salue Stéphane parce que je le remercie d'être avec nous. Et Denis, il t'adore, et Véro aussi. Et spontanément, il m'a dit hier... Quelle extraordinaire décision il a prise quand il a joint Boulevard 102.1. Il a dit, c'est devenu ma station, c'est devenu mon retour à la maison. Donc, je voulais absolument pas l'oublier. Je voulais le dire au début parce que j'ai tendance à oublier ces choses-là. Alors, promesse tenue, mon cher Stéphane. D'abord, je t'aime beaucoup comme journaliste. Tu sais mon amour pour la NFL. C'est un excellent chroniqueur de football. Il était là aussi hier pour le match de hockey. Alors, salut Stéphane, merci d'être avec nous. Tous les jours dans ton cas, Denis et Véro, et avec nous particulièrement le vendredi.
Salutations Stéphane Cadorette, merci beaucoup, mon Dieu, c'est un beau privilège, merci.
Non, vraiment, c'est ce que vous bâtissez là, petit à petit tous les jours, il y a des gens qui sont sensibles à ta personnalité, Denis. Il y a des gens qui ont déjà oublié ton comment dire, dont ton ancienne attache professionnelle. Et je porte pas de jugement. Alors, je veux simplement dire que quand on fait de la radio de votre sorte, c'est important quand même d'être dans le bon environnement pour être capable de laisser passer.
Mais tu le sais, Pierre, j'étais attachant avant aussi, là.
Oui, mais c'est pas mal moi qui t'a... Oui, t'étais attachant, mais il a fallu que je te détache un peu un certain matin. Non, je fais des farces. Mais oui, t'étais attachant, Denis, mais là, t'as le bon contexte. T'as le bon contexte. Alors, voilà, donc, alors c'est bien. Voilà pour les compliments pour toi. Merci de tes compliments. Je fais tout ça encore par passion et avec beaucoup d'humilité. On essaie d'être l'accessoire essentiel à un moment heureux que nous donne le sport. C'est plus que du sport, c'est du divertissement. Hein? Et c'est du temps discrétionnaire que les gens nous accordent. Et ce sont de très belles marques de confiance qu'on reçoit.
Deux gros matchs du Canadien cette semaine, puis même si ça s'est terminé un peu brise-cœur en prolongation hier, je pense que tout le monde est d'avis que le Canadien a livré toute une performance, une quarantaine de tirs au but. C'est l'énergie est littéralement contagieuse. Si cette équipe-là se retrouve en série, à partir de ce moment-là, la porte est ouverte, puis on ne sait pas
tout
nécessairement.
Est possible.
Mais ça reste un beau cadeau aux partisans. Puis vous montriez le tableau à RDS. Je pense que c'est mardi soir. D'où part le Canadien? À pareille date, il y a
trois ans. En décembre, c'était quoi? C'était 30e place?
Non, mais juste comparer les années précédentes. À combien de points le Canadien était des séries à la fin de la saison il y a trois ans? Puis là, on a la progression. Il y avait une trentaine de points d'écart, je pense, il y a trois ans. Puis là, c'est un petit peu moins, puis un petit peu moins. Puis là, ben, c'est la course avec les Rangers, avec les Islanders, qui, avec la victoire d'hier, se sont rapprochés un peu. Je le disais, puis tout le monde me taquine avec ça, Pierre. Denis, on sait bien, hein, tu vas revenir avec le Canadien à un moment donné. Non, mais de vivre ce que mes enfants vivent présentement... Moi, ça me rappelle mes Coupes Stanley de 86 et 93. Ça me rappelle qu'il y a une génération et demie de partisans du Canadien qui n'ont jamais vécu ça, une Coupe Stanley à Montréal. Je sais que mes enfants vont vivre leur première avant que moi, je vive ma prochaine. Puis je suis très, très zen et très, très heureux avec ça, là.
Ben, écoute, c'est un progrès qui est remarquable. Et il y a deux éléments, moi, que je trouve fascinants dans ce qu'on vit présentement. Il y a le Canadien qui connaît une séquence assez extraordinaire et qui, au moment où on se parle, a un pied en séries éliminatoires. Mais j'irais même au-delà, et je sais qu'on peut être très critique envers Gary Bettman pour toutes sortes de raisons. Oui. Il reste que quand le commissaire a parlé cette semaine, on vit aussi un merveilleux moment dans la Ligue nationale, dans son ensemble. Puis je ne sais pas qui, Denis, me disait hier... Ce serait moins passionnant si les Canadiens étaient déjà en série avec 20 points d'assurance, avec confort, petit train va loin et ainsi de suite. Alors que cette personne-là me disait, c'est beaucoup plus excitant de vivre cette course aux séries dans le contexte extrêmement serré, le contexte un peu fou dans lequel se retrouve la Ligue nationale de hockey présentement. Tu sais, on oubliait l'Ouest, Denis, pendant un bout de temps, avec raison. Que Saint-Louis, Vancouver, Calgary, même Utah, c'est quatre équipes pour une dernière place en série. Alors, c'est dans les deux associations, c'est sur les deux fronts. Et Bettman n'a pas tort quand il dit « Moi, je ne veux pas changer le format. » Pourquoi changer le format? Bon, on pourrait dire, ouais, des fois, pourquoi pas, un petit tournoi, un 2-3 ou un match sans lendemain comme le baseball fait avec les équipes repêchées. Moi, je vais t'avouer que si ce qu'on vit présentement, c'est enfin le résultat de l'implantation du plafond salarial il y a 20 ans, imagine-toi, ça aurait pris 20 ans, mais si c'est ça qu'on vit présentement, moi, je dis, ne touchons pas à ça. Bien sûr que c'est stressant, c'est sûr. Les partisans me disent, on est stressé, on n'est plus capable de dormir après un match. Mais est-ce que vous aimeriez mieux l'avoir différemment?
Ben non.
Je pense que
Puis c'est tellement agréable. On est rendu avec un running gag. Ici, à chaque fois qu'on commence un bulletin de sport avec notre chum Max, je lui dis « Bon, ben ce soir, c'est le match le plus important de la saison du Canadien de Montréal, à tous les soirs, parce que c'est ça. » Et la réalité fait en sorte que, tu parlais de la course dans l'Ouest, mardi, RDS, vous avez le match entre le Canadien et les Blues de Saint-Louis. C'est deux équipes qui ne peuvent pas se permettre de perdre présentement, chacune dans leur contexte. Ça va être excitant, tabarnouche, là.
Oui, ça va être excitant, Denis. Puis en même temps, ce que j'aime de ces confrontations Est-Ouest, tard dans la saison, pardon, quand il y a un enjeu, tu ne penses pas au point que tu laisses à l'autre équipe. Donc, si jamais tu te rends à égalité ou si tu approches de la troisième période d'une égalité, bien sûr que tu veux protéger le point. Mais là, quand tu arrives en prolongation, tu t'en balances un peu... Si l'autre équipe prend un point qui ne t'affectera pas au classement, comme le Canadien hier. Hier, c'était un peu plus crève-cœur parce que tu gardes les Islanders en vie derrière toi. Alors donc, et je pense qu'on est d'accord, le Canadien aurait pu mériter un meilleur sort hier. Donc, c'est intéressant. Donc, Colorado samedi, c'est la même réalité. Saint-Louis, mardi, c'est la même réalité. Après ça, tu joues contre les Flyers qui, je regarde le classement, sont pas mal largué de la course maintenant. Le lendemain, tu es en Caroline et tu as le gros match contre les Panthers dimanche. Quel est le fil conducteur dans tout ça? C'est que tu n'affrontes aucun rival direct dans ta quête d'une place en série. Certains diraient que c'est bon, certains diraient que c'est pas bon. Parce que si tu réussis à battre en temps réglementaire un rival direct, c'est 4 points. Quatre points d'impact. Là, tu n'as pas de match de 4 points vraiment. Ce sont des équipes, même celles de l'Est, qui sont devant toi. Sont devant toi par un bon bout. Mais il reste que ça, l'envers de la médaille est que le Canadien est un peu plus maître de son sort, de sa destinée. Écoute, Marc et moi, dans l'avion hier, on faisait un calcul. Il reste 14 matchs. Il faudrait au minimum un rendement de 9 et 5. Là. Ouais. Il peut y avoir une combinaison là-dedans de défaites en prolongation, là, mais ça prendrait grosso modo un rendement de 9 et 5 dans les 14 prochains matchs. C'est pas impossible, mais c'est quand même ambitieux. Là.
Effectivement. Pierre, on sent que le buzz est bon présentement, puis évidemment, gagner des matchs, ça soude et ça unit un vestiaire. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des histoires humaines qu'on contrôle pas qui, je pense, peuvent souder un esprit de vestiaire. Puis j'ai l'impression que ce qui arrive à Brendan Gallagher actuellement... C'est ce genre d'histoire-là que tu contrôles pas, où les joueurs de hockey peuvent redevenir des humains, peuvent être solidaires avec quelqu'un qui vit quelque chose, mais qui continue de travailler fort, qui continue de s'impliquer. Ça a été des moments d'émotion que nous autres, on a vécu en tant que partisans cette semaine. J'ai l'impression que ça peut faire partie d'une formule, d'un vestiaire qui joue un peu au-dessus de sa tête. Là.
Bien sûr. Pardon. Bien sûr, Denis... Je vais faire un parallèle avec les Blue Jackets de Columbus.
Oui.
Je suis convaincu que Johnny Gaudreau est dans le vestiaire. Je suis convaincu qu'il est dans l'entourage de l'équipe. Et je suis convaincu que ce n'est pas étranger à l'excellent rendement des Blue Jackets. Bon, ça va moins bien là, dans les derniers matchs, mais il reste que c'est une équipe étonnante. C'est une équipe qui s'est ralliée, mais qui a aussi eu... a été aussi entouré là, par les partisans, par la communauté hockey et ainsi de suite. Du côté du Canadien, c'est un peu la même chose. Je vais t'avouer qu'on se doutait bien, nous, que sa maman était très malade. Brendan a dû s'absenter quand on était dans l'Ouest. Et on savait que la maladie était sérieuse, qu'elle était grave. Sauf que quand il s'est frappé le cœur mardi soir... après un but si important, même s'il était en filet désert, on ne saisissait pas la raison de son geste. On l'a appris hier matin. Et toute l'équipe se rallie autour de lui. Mais tu sais, Denis, je lisais ou j'écoutais un de ses commentaires, puis il dit « Mon refuge, c'est le hockey. Mon refuge, c'est mon environnement. » Ben, je l'ai vécu, moi, il y a un an aussi, en allant décrire le Grand Prix de Bahreïn. Je me suis réfugié avec mon équipe, ma petite équipe de F1. Je me suis réfugié dans mon métier. Et je pense que c'est pas banal, là, ce que Brendan disait. C'est un véritable refuge. Et Je pense qu'avec ça et avec le fait qu'il avait réussi à aller quand même voir sa maman avant qu'elle quitte, mm-hmm. C'est probablement que c'était le réconfort dont il avait besoin. Et, mais quel être humain exceptionnel. Je m'excuse, j'ai la voix un peu éraillée ce matin.
Quel être humain...
C'est pas comme si t'avais crié toute la semaine. Hein?
Non. Mais quel être humain pardon, exceptionnel. Il a toujours été comme ça. Et tu sais, c'est un peu ça aussi. J'imagine qu'il trouve un certain réconfort dans la chaîne de la vie.
C'est sûr.
Sa maman disparaît, la petite est venue au monde il y a quelques semaines à peine. Je me rappelle, moi, quand ma grand-mère Juliette est partie, quelques jours après, on apprenait que Michel s'en venait. Alors, j'ai toujours été un peu croyant en ça. Et globalement, je suis tellement content pour lui et pour Josh Anderson, notamment Denis, parce que ce sont des exemples de joueurs et d'athlètes qui, bien sûr, éventuellement, vont attirer les critiques à propos de leur salaire. Non seulement le salaire en argent, pardon, mais la durée aussi du contrat. Mm-hmm. Et quand on a la couenne que ces athlètes-là ont, leur engagement, ce sont des histoires absolument extraordinaires. Puis écoute, il est rendu à 19 buts, Brendan Gallagher. Il n'y a pas grand monde qui aurait parié là-dessus avant le début de la saison.
Toute une saison, puis de voir à quel point il a contribué au cours de la semaine, puis le but égalisateur hier sur une échappée spectaculaire. C'est des moments de toute beauté, puis ça va vraisemblablement se poursuivre dans les prochaines semaines. Premier Grand Prix de F1 la semaine passée, puis la F1, quand ça commence, c'est comme les bolides, hein, ça part vite. Déjà un Grand Prix numéro 2 en fin de semaine du côté de la Chine, puis c'est mieux parti là pour Lewis Hamilton que lors de la dernière fin de semaine.
Ah, mais la dernière fin de semaine, ça a été épouvantable, Denis.
Ouais.
Écoute, trois autos qui sortent dans le tour de formation. De mémoire, j'avais pas vu ça. J'avais déjà vu des pilotes connaître des sorties de piste ou des têtes à queue dans des tours de formation, mais trois, c'était épouvantable. Écoute, les conditions étaient vraiment difficiles.
Ouais.
C'est pas la force de la pluie et l'abondance de la pluie, c'est vraiment le revêtement qui était une véritable patinoire. Mais c'est drôle, hein, parce que c'était... Même Bertrand a dit... J'ai rien à analyser. C'est tout de l'aléatoire, c'est tout du rebondissement, c'est des revirements et ainsi de suite. Mais ce dont on me parlait le plus toute la semaine, oh, quel spectacle, quel Grand Prix!
Ben oui.
Alors, tu vois, ça a quand même créé un événement.
Le seul défaut, peut-être, Pierre, c'est que j'imagine que dans ces conditions-là, on n'est vraiment pas en mesure de tester la réelle force des effectifs, des bolides, des pilotes
non.
et ainsi de suite, mais ça donne un grand reset pour en fin de semaine, par contre.
Voilà, très bien dit. Mais Denis, ce que les écuries, c'est-à-dire, apprécient avec le recul, c'est qu'au moins, ça leur a donné, dès l'entrée de jeu, ça leur a donné des informations essentiel avec les pneus pluie. On ne les avait pas testés au cours des essais de Bahreïn, des essais pré-saison. Alors là, ça donne évidemment énormément de connaissances, énormément de réponses à des questions. Donc ça, c'est le bon côté de l'histoire. Et oui, Lewis Hamilton, écoute, j'ai vu le début de la séance de qualification de la course sprint cette nuit. Ça donne une idée de l'heure à laquelle je suis allé au lit. Parce que ça commençait à 3h30. Alors j'ai vu le premier segment. J'ai dit, il faut que j'aille me coucher, ça n'a aucun sens. Mais c'était déjà passionnant. Et Lewis Hamilton a fait ça avec un grand panache. Il a établi le record du tour pour le circuit de Shanghai. Et ça ne veut pas dire pour autant que tout est réglé là, chez Ferrari. Au contraire, Lewis est très, 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 très terre à terre. Il a dit même être extrêmement étonné d'avoir réussi ce tour canon. Mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction et ça va amener un certain réconfort après une fin de semaine extrêmement difficile en Australie. Le circuit de Chine, Denis, d'abord, il est très beau. Hein, c'est Hermann Tilke, le grand ingénieur allemand qui l'a dessiné. C'est un très beau tracé. Il y a même un virage incliné. Ça, moi, j'adore ça quand on a ça en Formule 1. Donc, c'est un circuit plus conventionnel. On devrait avoir un meilleur portrait de l'état des forces. Là, le grand débat en fin de semaine, Denis, c'est Est-ce que certaines écuries trichent avec la flexibilité de l'aileron arrière?
Okay.
La FIA a même l'intention de durcir encore plus ses règlements lors des tests de flexibilité.
C'est la première fois de l'histoire de la F1 qu'on essaye de contourner un règlement chez différentes
ben
écuries,
oui, Pierre. Oui, ben oui, ben oui, ça s'est jamais fait. Voyons donc. Tu commences à connaître ta F1, tu fais de l'humour maintenant, mon cher.
On s'essaye.
Tu ironises. Bien sûr que c'est comme ça depuis 1950, hein, depuis le premier Grand Prix. Mais l'écurie qui est particulièrement visée, c'est Williams. Et Williams, c'est l'équipe surprise, Denis, là, aux essais de Bahreïn et la semaine passée. Et Williams et les écuries sont obligés maintenant de fournir le piétage d'une caméra qui capte l'aileron en continu, l'aileron arrière. Et Williams n'a pas fourni ça, là, aux dernières nouvelles. Alors là, il commence à y avoir toutes sortes de rumeurs. Est-ce qu'on triche, entre guillemets, chez Williams? Est-ce que l'aileron arrière est plus flexible? Écoutez, le principe, je pense que vous le devinez d'avance, c'est que plus vous sollicitez l'aileron, plus il y a une situation d'appui. Si l'aileron a une flexibilité supplémentaire, plus il sera efficace. Prenez l'aile d'avion à l'envers. Pourquoi on fait la composite maintenant? Tu as certainement vu des images des Dreamliner 787 ou du Airbus 350. Quand ils sont au décollage, tu as l'impression que les ailes vont craquer tellement elles sont courbées.
Ouais.
Alors, c'est un peu ce principe-là, mais à l'envers. Alors, donc, ça, c'est le grand débat en fin de semaine. Je pense que tout le monde est d'accord que les McLaren sont les meilleures voitures présentement. La question, c'est qui est deuxième? Ça, on le saura. J'ai l'impression que ça peut varier d'un circuit à l'autre. Mais pour la course sprint qu'on verra ce soir à 10h30, c'est Lewis Hamilton qui va partir en tête.
C'est une petite mention qui m'a fait sourire. Je sais bien que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la première fois en 2 ans et demi qu'on débarque à Shanghai, puis ce n'est pas Max Verstappen qui mène au championnat.
Ah, mais ça, c'est... mais c'est arrivé la semaine passée, mon cher Denis. C'est arrivé la semaine passée. Écoute, on avait sorti un tableau, je pense que c'était 1000 quelques jours, là, dernière fois que Max Verstappen n'était pas en tête du championnat. C'est venu proche l'an dernier. On avait commencé d'ailleurs à faire nos calculs l'an dernier. Tu sais, Norris se rapprochait à un certain moment et on était prêts, mais ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. Alors effectivement, c'est une grande page qui vient de se tourner. Ceci dit, Max n'est pas très loin, là. Hamilton a fait une 30-849, Verstappen une 30-867. Moi, je te dis une chose, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Moi, j'analyse strictement ce que je vois. Moi, je pense qu'il est au sommet de son art, Max Verstappen, présentement, parce qu'il rend cette voiture-là meilleure qu'elle est en réalité dans l'échiquier des écuries présentement. Ce qu'il a fait en Australie est assez remarquable. Son rythme hier, évidemment, l'échantillon est petit, mais son rythme est tout aussi remarquable. Il a réussi quand même à se placer devant les McLaren et devant Charles Leclerc.
Pierre, tu as parlé de pages d'histoire qui se tournent. Tu as fait mention sur tes réseaux sociaux du décès d'Eddie Jordan à l'âge de 76 ans, fondateur de l'écurie Jordan en 91, celui qui a donné le premier volant, je pense, à Michael Schumacher à l'époque.
Oui, absolument, Denis. Un Grand Prix mémorable, le Grand Prix de Belgique. Bon, les initiés connaissaient Michael Schumacher parce que Schumacher, Frentzen, Karl Wendlinger, je pense à ces trois-là particulièrement, ils faisaient partie de la filière Mercedes, mais Mercedes n'était pas en F1. Mercedes était en prototype. Les flèches d'argent, comme on les appelait, c'était des prototypes absolument remarquables. Et Mercedes avait ces trois bébés-là. Ils avaient quasiment la couche aux fesses quand ils étaient déjà exceptionnels. Et je te jure, Denis, je donne les trois noms parce que c'était vraiment des talents égaux. Hein. Michael était particulièrement bon, mais Michael n'était pas coté nécessairement
au-dessus des deux autres, oui.
Exactement. Bon, ça, c'est mon préambule. Il vient une histoire où Eddie Jordan a un de ses pilotes en prison.
Hein?
Oui, de mémoire, il s'appelait Bertrand Gachot. Et Gachot avait eu une prise de bec. Oui, mais gâchot au cachot. Il y avait eu une prise de bec avec un chauffeur de taxi. En tout cas, les policiers étaient venus. Il avait été au poste de police. En tout cas, je ne sais pas s'il était en prison, mais il était. En tout cas, il était au poste de police. Et ça prenait un pilote. Et Eddie Jordan, elle était magnifique. Puis allez la voir. Puis Véro, je sais que tu aimes ça, aller chercher des choses. Mm-hmm. Et tu mets ça sur vos plateformes. La petite Jordan verte 7-Up. Mm. Eddie Jordan, c'est un Irlandais. Il n'y avait pas d'argent. Comme il dit souvent dans son histoire, j'avais une auto, mais j'avais pas d'argent. Mm-hmm. Il est allé brillamment. Il a dit, bon, ma couleur, c'est vert. Qu'est-ce qui est vert dans le monde? Quelle marque de commerce est associée à la couleur verte? Il est allé chercher la commandite de 7-Up. Alors, il a mis... Et donc, la petite Jordan, je dis la petite parce qu'elle était, simpliste, elle était minimaliste, mais mon Dieu qu'elle était belle. Mm. Jordan est arrivé avec sa belle auto 7-Up.
Ben oui, évidemment, Véro l'a trouvé en deux clics. Là, on est en train de l'admirer.
Elle est belle, hein? Ouais, avec un peu de bleu, avec un peu de bleu.
Dans la base, oui.
Et le coup de crayon est magnifique. Mm. Toujours est-il que Lewis embarque dans cette voiture-là, il qualifie 7e, imagine-toi. Et c'était pas la meilleure auto, là. C'était vraiment une auto en retrait, une F1 en retrait par rapport aux autres. Alors, ça a été la grande consécration de Michael Schumacher, mais ça a été aussi une forme de consécration pour Eddie Jordan, parce qu'on n'a jamais pu dissocier la place de Jordan dans l'une des plus grandes carrières de l'histoire de la F1, celle de Schumacher. Et évidemment, le ratoureux Flavio Briatore, quand il a vu ce jeune homme-là aussi bon, ça n'a pas été long que Briatore a mis un de ses pilotes dehors chez Benetton et puis a amené Michael Schumacher. Le Grand Prix suivant, Denis, le Grand Prix suivant, Michael Schumacher faisait son entrée dans la grande famille Benetton alias Renault et commençait sa véritable carrière. Moi, j'ai aimé aussi Eddie Jordan pour toutes sortes d'autres raisons. Puis toi, Denis, évidemment, c'est dans ta talle directement. C'est un... pas un bouffon, au sens large. C'est un... Il est drôle. C'est un stand-up comique.
Okay.
Il a toujours des lignes hilarantes. Il est toujours de bonne humeur. Il est un peu lunatique. C'est un artiste.
C'est un personnage.
C'est un personnage exceptionnel que la F1 n'avait pas nécessairement connu. Quelqu'un disait que ça a été la première... C'est lui qui a amené... la philosophie des rockstars en F1.
OK.
Parce qu'il a ouvert la porte à ça. Mm. Et c'était tout un drummer, Denis.
Ah oui?
Ah oui, tu vas trouver des trucs sur les médias sociaux. C'était tout un drummer. Il avait créé un band, lui, en F1. Je me rappelle de Damon Hill, qui était un bon guitariste, mais lui, c'était tout un drummer. Un vrai bon, là, je te le jure. Là. Et puis... Et en terminant, parce que c'est pas seulement sur son humour, pas seulement sur sa personnalité attachante, mais tu sais que c'est à lui qu'on doit le fameux congé de 3 fins de semaine au mois d'août. C'est lui qui avait crié haut et fort que c'était inhumain pour les équipiers, c'était inhumain pour les mécanos, c'était inhumain pour le grand cirque de pas offrir un répit. Il dit le taux de divorce est rendu épouvantable, les dépressions, et aussi évidemment les démissions. Hein? Alors il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il a été le plus grand promoteur de ce qui est maintenant salutaire pour les écuries d'F1, c'est ce congé de 3 fins de semaine. Alors, il est parti un peu tôt. Il va laisser un grand vide dans les sacs de la F1. Et c'était, en terminant, Denis, le roi des rumeurs. Lui, il n'avait pas de filtre. Il entendait une rumeur farfelue passer dans la ligne des puits. Il allait en parler tout de suite à Sky Sport ou à la BBC. Bon, ça, c'est peut-être un côté un peu moins noble, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs qui sont sorties d'Eddie Jordan. Mais tu sais, quand tu dis le mot personnage, tu viens que tu pardonnes un peu ces choses-là à des personnages comme lui.
Pierre, il y a quelques semaines, on s'est parlé ensemble du film qui s'en vient sur la F1 avec Brad Pitt et ainsi de suite. La première bande-annonce est disponible. Est-ce que j'ai entendu entre les branches qu'on risque d'entendre ta voix dans ce film-là?
Ben écoute, je veux et je peux bien en parler, mais je le fais pas pour me placer au-dessus de la mêlée. Je suis au contraire très touché. Oui, on m'a demandé de faire la description de... des moments de Formule 1 sur la trame francophone. Maintenant, est-ce que c'est pour le Québec? Probablement que c'est ça, et j'appuierais cette approche. On veut peut-être une trame québécoise et une trame française internationale.
Ça arrive souvent de plus en plus, non?
C'est ça. Alors, je suis très touché. Je remercie les gens de Cinélume qui étaient... Vous connaissez le nom de Cinélume. Ce sont de grands, grands artisans des montages et des doublages de films. Alors, on m'a demandé avec Bertrand d'être la voix en toile de fond. Je suis très, très, très touché. D'abord, j'adore le faire. Je l'ai fait pour plusieurs films, Denis. J'adore le rush que ça donne. J'adore être debout devant le grand écran, puis le petit point qui s'en vient, là, tu sais, le point d'insertion, puis le point de sortie. J'adore, ça nous sort de notre cabine de commentateur.
Ouais.
Donc, au départ, j'ai beaucoup j'ai un très gros rush quand je fais de la voix sur un film. Mais là, écoute, c'est quand même particulièrement stimulant parce que c'est notre univers de F1. Alors, ça va se faire au début du mois de mai.
Ah, très cool. On vous écoute évidemment en fin de semaine. C'est quoi les heures des activités pour la Chine? Faut vivre un drôle d'horaire, hein, c'est ça? Faut-tu se coucher tard ou se lever tôt? Là? C'est lequel des deux? Là?
Regarde, je vais te donner ça en pièces détachées, Denis. Ben, 10h30 ce soir, c'est pas si mal.
C'est très bien. Un vendredi soir, ça a bien de l'allure.
Bon, ce soir à 10h30, on fait 30 minutes d'avant-course. Mm-hmm. Et la course sprint est à 11h. À 11h35, là, c'est fini. Là.
Oui.
Alors, c'est pas pire.
Ouais,
tu vas pouvoir te coucher avant minuit.
Ça a bien du bon sens.
Et la séance de qualification, elle, est à 3h dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, avant une émission d'avant-qualif à 2h30. Et le Grand Prix comme tel est dans la nuit de samedi à dimanche. Émission d'avant-course à 2h30. Alors, c'est extraordinaire si vous êtes avec nous en direct, mais je peux tout de suite vous rassurer que les reprises sont offertes par RDS aux heures traditionnelles d'Europe. Là. Alors, la fameuse tradition là, du dimanche matin et du samedi matin, c'est là probablement où vous aurez les meilleurs moments pour vivre et la qualif et la course.
Je vais suivre la tradition de bien des amateurs de F1. On ferme Twitter, on ferme Internet, on ferme les réseaux sociaux, on se lève puis on fait comme si c'était en direct.
Absolument. Et en terminant, Denis, j'ai pas eu le temps à cause de mes horaires. Je sais que tu m'as envoyé quelque chose. Tu m'as envoyé un beau document avec un de tes fils.
Ah, mon Dieu! Je t'ai envoyé les premiers reportages d'un jeune journaliste sportif et je pense qu'il y a bien de l'avenir. Je sais que tu es une référence en la matière, puis c'est pour ça que je t'envoie, puis on peut en parler parce que c'est sur les réseaux sociaux de Boulevard. C'était la Winter Classic de Boulevard hier. On avait des collègues qui étaient sur la glace et tout
Denis
ça.
Denis était annoncé. Sœur maison, il a vraiment bien fait ça.
J'ai tellement eu fun. C'était génial. Puis mon plus jeune fils, Arthur, est allé faire les entrevues d'avant-match, pendant le match et après le match.
Ben voyons. Alors écoute, je vais regarder ça avec un grand intérêt et je vais lui envoyer mes commentaires. Il y a des grosses chances que ce soit un A+.
Des bonnes notes.
Il va capoter sa vie, Pierre.
Ben oui, je vais aller le regarder avec beaucoup de plaisir.
Hey, merci beaucoup, Pierre. Plein d'amour. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine, Pierre.
Merci. Bonne fin de semaine à vous autres aussi.
Hey, vous êtes à Boulevard 102.1 à tous les vendredis. On a l'immense privilège et l'extrême joie de partager des beaux moments avec notre ami Pierre Houde. Donc, il faut se coucher tard, il faut se lever tôt, il faut faire les deux ou fermer nos réseaux sociaux en fin de semaine pour suivre le deuxième Grand Prix de la saison de F1 du côté de la Chine. On fait une courte pause. Vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour.